Merci à notre orateur du jour, Jean-Jacques Levis, qui enseigne maintenant aussi au milieu de nous, qui donne des cours enracinés le samedi matin. On sait que beaucoup d'entre vous suivent. Et ce matin, tu vas en parler, c'est la suite d'une série de 3 fois que tu as donné en cours enraciné. Mais je vais prier pour toi. Merci Père pour Jean-Jacques au milieu de nous. Tu viens déposer en lui ton onction, tes mots. Tu viens le rafraîchir dans son corps, dans son âme, par ton Saint-Esprit. Et prépare nos cœurs à recevoir cette parole aussi que tu as déposée sur son cœur. Amen.
Jésus revient, es-tu prêt? Ah, j'entends moins d'amen là. Justement, c'est le sujet d'aujourd'hui, et je vous propose justement qu'on puisse, à la fin de ce temps de prédication, pouvoir aussi dire amen avec autant d'enthousiasme que d'avoir dit Jésus revient. Pour faire suite aux 3 matinées d'enseignement que j'ai données sur l'eschatologie, c'est un mot un petit peu barbare qui veut dire ce qui concerne la mort, les résurrections, les événements qui vont marquer la fin du monde. Je vais vous parler d'un sujet central de cette doctrine, à savoir le retour de Jésus-Christ. C'est le pasteur Luc qui m'a demandé en disant ça serait bien, en terminant la série sur ces fins des temps, de pouvoir le dimanche suivant être dans le cadre de l'Église et puis continuer pour que toute l'Église puisse être encouragée par ce sujet. Les églises de réveil ont développé leur vision au travers de ce qu'on appelle l'évangile aux 4 angles. Les 4 angles, donc le premier c'est Jésus sauve, le suivant Jésus guérit, le troisième Jésus baptise de son esprit, et enfin le quatrième Jésus revient. Petite parenthèse, vous avez appris que le groupe Métamorphose était ici. Dans notre groupe d'enfants métamorphose, nous avons travaillé ces 4 axes jusqu'à Noël et nous avons un petit peu compris quelles étaient les différentes activités de Jésus sur cette terre et au-delà. Et puis, on les a invités aujourd'hui à participer au culte pour qu'ils puissent continuer à être enseignés sur ce sujet du retour de Jésus. Parallèlement à ça, depuis janvier, nous travaillons le livre des Actes. Et nous essayons de mettre en connexion le livre des Actes avec la vie de notre Église. Donc, ils sont parmi nous aujourd'hui pour être simplement des orateurs, pour regarder ce qui se passe, pour entendre aussi la parole. Et puis, la prochaine fois que vous les verrez, ils seront un petit peu plus serviteurs. Mais pour l'instant, on va aller progressivement, un petit peu comme Jésus. Au début, Jésus faisait tout, les disciples regardaient. Ensuite, les disciples faisaient avec Jésus à leur côté. Et enfin, les disciples faisaient tout seuls. On va un petit peu faire ça avec les enfants. Au risque d'étonner quelques-uns d'entre nous, sachez-le, Jésus va vraiment revenir. La Bible utilise l'expression « le retour de Jésus » ou « l'avènement du Seigneur », mais ça veut dire la même chose. Ça veut dire « Jésus va revenir sur cette terre ». Et Jésus lui-même a annoncé cette promesse dans l'évangile de Jean, chapitre 14, par exemple, il nous dira ceci au verset 2 et 3. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Nous devons donc prendre au sérieux ces paroles de Jésus et ne pas vivre comme si Jésus n'allait jamais revenir. Vous savez, s'enfoncer dans notre bon christianisme personnel en pensant que toute la vie, toute ma vie sera comme celle que je vis aujourd'hui. Non, Jésus revient. Et on le dit souvent dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, il y a plus de 300 références qui parlent du retour de Jésus-Christ. C'est-à-dire un verset sur 15 Est-ce que vous imaginez? Si la première venue de Jésus a été annoncée dans l'Ancien Testament, la seconde venue de Jésus a été annoncée avec 8 fois plus de versets dans le Nouveau Testament. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. C'était une doctrine fondamentale dans la vie des premiers disciples. C'est une doctrine un peu secondaire maintenant. Jésus va revenir. Mais quand? Quand? Oui, bientôt. C'est très juste. Est-ce que la Bible nous donne certaines informations quant à ce retour pour que je puisse me préparer, finalement, hein? Alors la réponse est oui, la réponse est non. La réponse est d'abord oui. Oui, en Matthieu 24, Jésus va nous parler de signes qui vont précéder son retour. Des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, ou encore des faux Christ, des faux prophètes. Et même notre amour pour Dieu et pour les autres va se refroidir. Bon, on n'est pas très avancé, parce que finalement, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des famines, il y a toujours eu des tremblements de terre, et il y a toujours eu des illuminés qui voulaient se prendre pour Jésus. Donc on se dit, c'est un petit peu court, Seigneur, ce que tu nous dis dans ta parole. Alors oui, Jésus donne quand même des informations, et puis de notre côté, non, Jésus ne désire pas en donner, en fait, il ne donne pas de date. Allez, ce serait trop facile. J'ai lu abondamment des revues sur Internet aussi, sur le retour de Jésus-Christ, et j'ai vu que certains annoncent, tenez-vous bien, le retour de Jésus pour le 23 septembre 2017. Donc, c'est bientôt l'heure. Si même Jésus ne sait pas, je me demande comment les gens ont trouvé cette date. Jésus dira ceci par contre, dans ce chapitre 24 de Matthieu. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Et puis il dira ceci, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et c'est vrai que si je sais qu'un voleur va venir chez moi et que je connaisse le jour et l'heure, eh bien je vais mettre mon réveil, je vais inviter des amis chez moi pour mettre ce voleur en déroute si je savais l'heure et le jour. Mais comme je ne sais ni l'heure, ni le jour, alors je dois être prêt à pouvoir l'attraper à n'importe quel moment de la journée ou à n'importe quel moment de la nuit pour pas qu'il vienne me dérober des choses chez moi et venir fracturer mes coffres où je mets tout mon argent suisse dedans. Finalement, Jésus nous dit, mais soyez prêts. Soyez toujours prêt. C'est pas une formule scout, c'est une formule d'abord chrétienne. La Bible nous apprend que ce retour va se faire en deux temps. D'abord, Jésus va revenir pour prendre les siens avec lui. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, ce que nous avons lu dans Jean 14. Et tous ceux qui auront cru en lui, c'est-à-dire les chrétiens qui sont déjà morts, et nous en connaissons. Et puis ceux qui sont vivants, vous, moi, si Jésus devait revenir, il y a un moment qui s'appelle l'enlèvement. Et c'est ce moment où Jésus vient rechercher tous ceux qui auront cru en lui. Alors, les morts qui sont morts en étant chrétiens, eh bien, la Bible dit qu'ils vont ressusciter, vraiment ressusciter, pas simplement comme Lazare qui est ressuscité pendant quelques années et puis après il est mort, mais ressuscité pour toujours. Et puis les vivants, ben on n'est pas mort puisqu'on est vivant. Eh bien, on va être transformé, la Bible dit qu'on va être transformé avec un nouveau corps. Alors quand je me regarde, j'attends ce moment avec impatience parce que les années me montrent que même si l'extérieur est encore plus ou moins plaisant à voir, l'intérieur, finalement, a de plus en plus de soucis. Alors, nous serons transformés avec un nouveau corps, et franchement, ça, c'est cool. Quand vous regardez le matin dans la glace, vous direz, waouh, j'aurai un nouveau corps, ça, c'est cool. Et puis, tous ensemble, nous serons un petit peu enlevés vers Jésus, comme Jésus a vécu lors de l'ascension. Il était enlevé, vers le ciel, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons tous ensemble, il y en aurait du monde, hein, partir à la rencontre de Jésus, et Jésus va prendre son Église ressuscitée avec lui et va partir au ciel pour être toujours avec elle. Et quand je regardais la décoration de cette salle, et j'aimerais vraiment féliciter ceux qui ont décoré, parce qu'ils nous ont décorer l'église comme si c'était l'enlèvement. Malheureusement, toutes les bouteilles ne sont pas en train de partir vers le ciel. J'en ai une à ma gauche, à votre droite, qui est... Je vais la lever, là. Qui est différente. Elle ne monte pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie en elle. Et puis cette lumière, on va parler de cette rencontre que nous avons faite avec Dieu. Et j'aime beaucoup, je regardais ça, je dis, waouh, c'est comme si c'était l'enlèvement. Donc on y est. Et la Bible nous dit que nous serons tous enlevés avec Jésus. Et pour ça, ce n'est pas simplement moi qu'il faut croire, mais c'est vraiment la Bible. Paul aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15, dira ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc c'est vraiment une emphase très claire. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, vraiment, Jésus revient. Et ça va changer, ça va bouleverser notre vie. Pour ceux qui ont Jésus en eux, mais ça va aussi bouleverser la vie de ceux qui n'ont pas Jésus en eux. Ça, c'est la première partie de ce retour de Jésus. Et puis la deuxième partie, c'est un retour absolument physique de Jésus sur la terre. Et comme Jésus montait au ciel le jour de l'ascension, et que ses disciples regardaient avec attention ce Jésus qui devenait de plus en plus petit, eh bien des anges sont venus vers eux et leur ont dit, on trouve ceci dans Actes 1, versets 10 et 11, « Comme les disciples avaient leur regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et ils dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. » Donc ça, c'est le retour de Jésus. On n'en est pas encore à « Es-tu prêt ?» Vous avez remarqué. On est toujours à cette dimension du retour de Jésus qui va se faire en deux temps. Jésus va prendre son Église. Et puis, on va passer du temps au ciel pour les noces de l'agneau, on va faire un festin, pour recevoir des récompenses en fonction de ce que nous aurons fait dans notre vie chrétienne. Et puis ensuite, nous redescendrons avec Jésus lors de son retour. Ça veut dire que quand les chrétiens parlent du retour de Jésus, en fait, ils veulent dire l'enlèvement. Parce que le retour de Jésus, eh bien, les chrétiens vont accompagner Jésus lors de son retour et seront avec lui. Je reviens à ce thème que vous avez tous sur votre petite feuille. Jésus revient, es-tu prêt ? On a bien compris l'image du voleur. C'est une image. Jésus n'est pas un voleur. On ne sait pas quand il va venir, ce voleur. Donc on doit être prêt, tout le temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être prêt, quand on parle de l'enlèvement ? Comment se préparer, vraiment ? Comment je peux savoir si je suis vraiment prêt ? Ou si ce que je pense être prêt, et que c'est suffisamment bien pour moi, finalement, ce n'est pas assez bon pour Dieu. Vous comprenez la différence ? Et je me dis, mais comment savoir si je suis prêt ? Quelles sont les certitudes que Dieu peut me donner, que la Bible peut me donner, pour savoir si je suis prêt ? Alors, quand Jésus reviendra, Jésus, c'est un Dieu exclusif. Nul ne vient au Père que par moi. Et cette exclusivité chasse de notre mode de vie tout le syncrétisme qu'on pourrait faire avec les autres religions. Il n'y a que Jésus qui est le Seigneur et le Sauveur du monde. Nous l'avons chanté et nous l'avons bien chanté, nous l'avons proclamé et c'est la vérité. Mais ce Dieu exclusif ne va pas tout d'un coup devenir bonasse. Quand il reviendra lors de l'enlèvement, il ne prendra avec lui que les chrétiens authentiques. C'est-à-dire des personnes, les petits, comme Meta, ou les plus grands, comme vous, qui auront demandé pardon à Jésus pour leurs péchés, qui auront réalisé l'échec de leur vie sans Jésus, qui lui auront donné leur vie. Et la Bible appelle cela la conversion. Quand je crois que Jésus est mort à la croix pour moi, ou à cause de mes péchés, et que je lui demande pardon, alors je suis une nouvelle créature, je suis sauvé, je deviens un chrétien authentique. Oups. L'essentiel, ce n'est donc pas de venir à l'église, même si c'est une église évangélique. L'essentiel, ce n'est pas de chanter des chants qui nous parlent de Jésus, même si ces chants disent la vérité. L'essentiel, ce n'est pas de lire la Bible, même si je trouve que c'est un bon bouquin. L'essentiel, ce n'est pas de prier avant le repas ou le soir avant de se coucher, même si ces prières sont sincères. L'essentiel, c'est de donner sa vie à Jésus, d'abord. Et c'est ça que les anciens frères des églises de réveil voulaient le dire dans ces quatre axes de l'évangile, Jésus sauve. Et ça, c'est la base. Ensuite, Jésus guérit, Jésus baptise de son esprit, et enfin, Jésus revient. Jésus sauve. Est-ce que vous avez fait cette expérience de la conversion ? Vraiment ? Est-ce que vous êtes certain d'être prêt ? Vraiment ? Alors j'aimerais vous laisser une petite vidéo, mais avant je vais la commenter avant que vous la voyez. C'est une vidéo qui va durer 55 secondes. Donc il faut être prêt. On ne va pas la faire deux fois, donc il faudra bien regarder. C'est un pasteur qui parle à une centaine de jeunes dans une église. Et puis qu'il parle du retour de Jésus, comme je le fais maintenant. Et puis il dit, mais faites attention, Jésus peut revenir n'importe quand, dans un mois, dans une semaine, dans 3 ans, etc. Et puis, bon, il parle en anglais, donc ceux qui comprennent l'anglais, vous pourrez voir, mais si vous ne comprenez pas l'anglais, vous comprendrez quand même. Puis vous verrez que si la vidéo est de pas bonne qualité, mais ce n'est pas pour la vidéo, ce n'est pas pour l'anglais, c'est pour le message qui est donné. Alors on va voir cette petite vidéo, on va peut-être éteindre si on peut, et puis après, 55 minutes de votre temps, 55 secondes, Jésus revient, es-tu prêt ? Parfois, 55 secondes de vidéo valent une heure de prédication. Es-tu prêt ? Et vous allez me dire, oui, oui, je suis prêt. J'ai donné ma vie à Jésus. D'ailleurs, tout le monde voit ma petite lumière en moi. Oui, mais être prêt, ce n'est pas fini. Ben non. Un jour, un bateau fit naufrage. Et les rescapés ont pu se réfugier sur une petite île déserte. Ils ont décidé de faire un feu afin d'avertir les autres bateaux de leur présence pour qu'ils puissent les secourir. Je trouve que c'est une excellente idée de faire un feu. Si un jour vous êtes bloqué sur une île déserte, faites un feu. Mais cela ne sert à rien du tout de faire un feu s'il s'éteint au bout de quelques heures. Il faut l'entretenir, c'est-à-dire constamment l'alimenter avec du bois pour que tous les jours, toutes les nuits, ce feu soit visible quand un bateau passera par là. Et je vais continuer à reprendre, je suis désolé, je vais casser toute la décoration de l'église. Il me faut alimenter ma foi, comme il faut que j'alimente ce feu. Parce que ça ne sert à rien d'être converti quand on avait 5 ans ou 6 ans et puis qu'après on vive une vie de patachant en disant « de toute façon j'ai mon billet pour le ciel, alléluia ». La Bible me dit qu'il faut que j'entretienne ma foi. Elle appelle ça la sanctification. Et puis il est dit « sans la sanctification ». Nul. Ah, vous connaissez mieux le verset que moi. Donc je vous écoute, nul ne verra le Seigneur. C'est bien. Donc quelque part, c'est une réalité essentielle de la vie du chrétien. Non seulement il faut qu'un feu brûle en nous, mais encore faut-il que nous l'entretenions pour que ce feu demeure et que cette lumière de l'évangile brille dans notre vie. Donc je vais mettre la bûche de bois à côté de la bouteille. Pour montrer les deux parties. Un feu sur une île déserte, notre foi, c'est un petit peu la même chose. Ça ne me sert à rien de me convertir si je laisse mourir la vie de Jésus qui est en moi. Oh, vous savez, ça ne va pas mourir d'un arrêt cardiaque. Tout d'un coup. Ça va mourir à petit feu. Petit à petit. Ainsi, alimenter ma foi, c'est prier régulièrement, c'est lire ma Bible régulièrement, c'est vivre une vie d'église qui me nourrit, c'est passer des moments de qualité avec Dieu, c'est vivre une vie conforme à ce que la Bible demande. Être prêt, c'est faire de Jésus son Seigneur. Non, je recommence. Être prêt, c'est faire de Jésus son Sauveur pour toujours, mais c'est aussi être prêt à faire de Jésus son Seigneur chaque jour. Ça, c'est être prêt. Être prêt pour être enlevé, être prêt pour le rencontrer lorsqu'il deviendra. Et si je devais repasser cette vidéo avec cette nouvelle compréhension que ce n'est pas simplement d'être converti qui me fait d'être prêt, mais c'est aussi d'avoir alimenté ma foi tout au long de ma vie chrétienne pour que je puisse être prêt, comme si je devais attendre ce voleur qui vient de chez moi. Oh bien sûr, j'ai déjà passé 50 années de ma vie peut-être à attendre ce sauveur, mais si je ne l'attends plus, si je baisse les bras, eh bien je ne peux pas garantir que je serai prêt. Et si ma flamme vacille, comme dans cette décoration de l'église, sur ma droite vous avez des belles bougies en bois, vous avez vu la flamme de l'an ? Elle est en train de mourir, cette pauvre bougie. Décidément, cette bougie n'est pas prête. Mon souhait, c'est que si Jésus devait revenir aujourd'hui, maintenant, toute l'assemblée soit enlevée. Et qu'il ne reste personne à s'agenouiller pour se lamenter de n'avoir pas su savoir se préparer. Mais attention, je ne suis pas ici pour vous faire peur. Loin de moi. Je ne dois pas me convertir par peur, peur de ne pas être enlevé, mais je dois me convertir par amour pour Dieu. Parce que c'est un Dieu qui est venu mourir à ma place pour me donner une qualité de vie extraordinaire, qui vaut la peine d'être vécue tous les jours. Sauveur pour toujours, Seigneur chaque jour. Est-ce que Jésus est votre Seigneur aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes prêt ? Parce que si je me suis converti et que je laisse régner Jésus dans ma vie au quotidien, alors je suis prêt pour l'enlèvement. Je me réjouis même de ce moment-là. Et je l'attends avec espérance parce que c'est le moment où je serai avec Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. C'est le moment où la fiancée va rencontrer son futur époux. C'est un moment extraordinaire. Et je me réjouis de le vivre. Mais je ne veux pas m'illusionner moi-même pour cela. Je dois être prêt. Voilà. Mais je ne vous ai pas tout dit. En Matthieu 24, le verset 14, il y a encore un autre signe qui annonce le retour de Jésus. Et ce que je ne vous ai pas dit, je vais vous le dire maintenant. Alors j'ai fait exprès, bien sûr, pour garder le suspense. Voici ce que Jésus dit quand il parle des signes qui vont précéder son retour. « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Tous les autres signes que Jésus a annoncés pour proclamer son retour sont absolument indépendants de notre volonté. Que nous le voulions ou pas, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, il y aura des guerres, il y aura des bruits de guerre, il y aura des illuminés qui vont se prendre pour Jésus. Là, c'est différent. Le dernier signe parle de notre responsabilité personnelle envers ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Vous évangéliserez la terre entière, alors je reviendrai. Nous sommes appelés à évangéliser le monde entier dans toutes les nations du monde, alors seulement Jésus pourra revenir. En quelque sorte, si je lis bien ce que je lis, l'Église a le pouvoir de hâter le retour du Seigneur. Ça veut dire, elle a le pouvoir de faire que Jésus revienne plus tôt. Oui, c'est vraiment ce que je veux dire. L'Église a cette autorité d'accélérer le retour de Jésus en annonçant à tous les êtres humains de cette planète, c'est-à-dire 7,5 milliards d'habitants. Les dernières statistiques du monde évangélique disent qu'on est 500 millions, un demi-milliard. Et on se rend compte, sachant-le, qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens dans le monde que maintenant. Et puis, Jésus n'est toujours pas revenu. On se dit, mais il faut quoi, Seigneur, pour que tu reviennes? Et puis, Pierre nous donne une excellente réponse. En 2 Pierre 3, verset 4, il y avait déjà des gens de l'époque de Pierre, il y en a encore maintenant, qui disent ceci. « Où est la promesse de l'avènement de Jésus? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création du monde. » Finalement, il n'y a rien qui change. Et puis vous, chrétiens, vous dites que Jésus va revenir. Mais attendez là, arrêtez de rigoler. C'est juste pour vous illusionner, pour donner un sens à votre vie, pour vous donner un but. Mais Jésus qui revient, mais franchement, c'est n'importe quoi. Regardez, ça fait tellement longtemps que vous l'attendez, 2000 ans. D'ailleurs, Jésus disait, je reviendrai alors que certains d'entre vous seront encore vivants. Et ça fait 2000 ans. 2000 ans. Il n'y a même plus des cadavres, il n'y a plus que de la poussière. Où est la promesse de ce Jésus qui revient? On croit finalement des mensonges. On a été bercé, illusionné par des mensonges. Et puis Dieu répond. Et puis, il dit ceci par la bouche de l'apôtre Pierre, « Le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et ça change la vie. Parce que dans ce verset, Dieu nous dit qu'il aimerait bien revenir. Il aimerait bien revenir. Mais que son désir, c'est que tous arrivent à la repentance, petits et grands. C'est-à-dire 7,5 milliards de personnes qui peuplent aujourd'hui notre planète. Le désir de Dieu, c'est vraiment qu'aucun ne périsse et que tous aient la vie éternelle. Que fait donc Dieu alors? Eh bien, regardez ce que l'apôtre Pierre dit. Il use de patience. Il a une patience qui est usée à force d'attendre. Mais d'attendre quoi? Eh bien, la suite nous le dit, d'attendre que les chrétiens remplissent leur part du travail. Il a dit ceci, le Seigneur ne tarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Et c'est qui ce « vous » ? Eh bien, ce « vous », c'est nous. C'est l'Église. Ce sont les chrétiens. Donc, si je veux dire, Dieu aimerait bien revenir, mais il prend patience, il attend que l'Église fasse son travail pour que tous soient sauvés, pour que quand il reviendra, tous soient enlevés. C'est simple. La difficulté, c'est chez l'homme. Parce que on ne remplit pas ce mandat-là. Et si on veut se poser la question, Jésus revient, es-tu prêt? Ah oui, je suis prêt, j'ai ma petite lumière, j'ai ma petite bûche sous le bras, pas de souci. Puis la troisième partie de cette réalité d'être prêt, est-ce que tu es prêt à ce que Jésus revienne en faisant ton travail, en partageant l'évangile dans le monde entier? J'ai fait un petit calcul, hein, je ne suis pas prof de maths pour rien. Mais vous verrez, même les enfants vont pouvoir comprendre, c'est simple de simplicité. Imaginez que, enfin, c'est vraiment de l'imagination, hein, je ne dis pas que ça va se passer, mais imaginez que vous allez amener une personne à Jésus. Et que pour ça, je vous donne un laps de temps de 5 ans. Est-ce que c'est faisable? Oui. Si à partir de maintenant, vous avez 5 ans, en 2017, on reviendra à la Saint-Valentin 2022 pour faire un grand repas avec la personne qui s'est convertie. Vous dites, c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun souci. Bien. Maintenant, si je mets ceci à la population de l'escale, disons qu'on est 250, petits et grands, au bout de 5 ans, 1000. Là, on a déjà des problèmes de locaux. Et puis, qu'au bout de 5 ans, je revois les deux personnes, la personne qui s'est convertie dans ces 5 années, puis je leur dis, écoutez, on va faire la même démarche. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer? Puis ils vont me dire oui, parce que, bien sûr, hein, ils veulent être prêts. Et puis on dit, ben voilà, je vous donne encore 5 ans pour que vous puissiez de nouveau amener une personne à Jésus. 5 ans après, de 1000, on passe à 2000. Pardon, de 500, on passe à 1000. Je vois que vous écoutez. Mais je reviens en 2027. Je reviens en 2027 parce que Dieu me prête vie. Et je me dis, on va encore faire une troisième fois l'expérience. Mais tant qu'on est 1000, on va faire la même chose. Je vous donne encore 5 ans pour annoncer l'évangile à une seule personne et qu'elle se convertisse et qu'elle devienne un disciple. Et puis au bout de 5 ans, on est déjà en 2032. On va doubler encore une fois le nombre de personnes. On sera cette fois-ci 2000. Et puis, en fin de compte, je vous dis une dernière chose, puis après je me tais. Faites encore une fois l'expérience. C'est 2000, vous avez 5 années pour annoncer l'évangile à une personne. Donc, et puis, au bout de ces 5 années, 2000 personnes multipliées par 2 égale 4000 chrétiens dans l'église de l'Escale en 2037. Amen. Bien. Amen. Faisons ça avec le monde. 1,5 milliard de personnes aujourd'hui. Si chacun fait la même chose, au bout de 5 ans, vous avez 1 milliard de chrétiens. Si 5 ans après, vous refaites la même chose, vous avez 2 milliards de chrétiens. Si au bout de 15 ans, il y a encore une fois les choses qui se sont faites, vous avez 4 milliards de chrétiens. Et au bout de 20 ans, la terre entière est évangélisée. Si seulement chaque chrétien, au maximum, amène à l'évangile 4 personnes. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur ou pour vous donner des chiffres énormes, mais je vais vous dire que le retour de Jésus n'a jamais été aussi proche. Parce qu'aujourd'hui, physiquement, nous avons la possibilité d'évangéliser le monde entier en 20 ans. Et si je vous disais, au lieu de 20 ans, est-ce que vous pourriez amener une personne à l'évangile en une année? Eh bien, il faudrait 4 ans pour que le monde entier soit évangélisé. Vous vous rendez compte? L'autorité, le mandat que Dieu nous a donné, et il y a seulement maintenant qu'on peut le faire. Avant, ils ont essayé, mais ils étaient trop peu nombreux. Maintenant, on est suffisamment nombreux pour remplir ce verset de Matthieu 24 qui dit que le monde entier peut être évangélisé. Et puis, je vois que les choses n'avancent pas. Pas chez nous, mais dans le monde entier. En Suisse, l'Église, elle stagne plus ou moins. Et puis je dis, mais Seigneur, reviens, reviens, parce que j'ai besoin que tu reviennes, je souffre dans ce corps. Puis Dieu dit, mais moi j'aimerais bien, malheureusement il y aura toujours des persécutions, il y aura toujours des famines, il y aura toujours des tremblements de terre, il y aura toujours des faux Christ, il y aura toujours des ci et des ça. Mais la seule chose que j'aimerais, c'est que mon peuple se lève, qu'il soit prêt à relever le défi d'évangéliser la terre entière pour que je puisse revenir. Parce que Dieu attend notre part pour qu'il puisse faire la sienne. Et aujourd'hui je me dis, waouh ! Alors oui, je veux être prêt. Et je reprends cette dernière partie de la décoration. Et je reprends cette lanterne en disant, je veux être un flambeau qui brille dans ce monde. Alors là, il est éteint, mais... Oups ! Je veux être celui qui brille dans ce monde, qui fait la différence dans un monde corrompu, dans un monde malhonnête, dans un monde qui va à sa perte. Qui peut relever ce monde, sinon l'Église ? Qui peut changer cette pourriture que le monde est en train de nous donner par tous les moyens, sinon l'Église qui a l'autorité pour changer ces choses ? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi assaisonnera-t-on cette terre ? Et puis Jésus dit des paroles terribles. Ce sel devient inutile. Il n'est bon qu'à être jeté au feu. Imaginez ce que ça veut dire être jeté au feu. Trois symboles, très trinitériens, hein, cette prédication. Jésus revient. Et en regardant ces trois symboles, la conversion, la sanctification, l'évangélisation, j'aimerais vous poser cette question. Es-tu prêt pour être enlevé avec Jésus ? Es-tu prêt à te convertir si tu ne l'as pas fait ? Es-tu prêt à entretenir ta foi dans une intimité avec Dieu régulière et une vie conforme à l'Évangile ? Jésus revient. Es-tu prêt ? Si tu ne l'as pas fait, c'est peut-être le moment de dire, et avec plaisir, j'ai chanté tout mon cœur ce chant, je te donne mon cœur, je te donne tout. Ça, c'est entretenir, c'est la conversion et l'entretien. Mais je te donne tout, c'est je te donne aussi mon temps, je te donne aussi ma vie pour que je puisse être ton témoin. En définitive, quand Jésus s'est en allé au ciel, il a regardé ses disciples et il leur a dit, restez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit. Et vous savez ce que ça va faire, cette puissance ? Ah, ben ça va vous réjouir dans votre conversion ? Oui. Ça vous permet d'avoir une vie plus conforme à ce que l'Évangile donne, parce que le Saint-Esprit en nous, c'est extraordinaire, c'est la bûche. Mais Jésus dira tout de suite la troisième partie. Il dira, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant que Jésus s'en aille, sa pensée était Église de Jésus-Christ, avant même que cette Église n'existe, puisque la Pentecôte n'était pas encore descendue, mais c'était disciple de Jésus, évangélise la terre. Et puis de son retour, il nous dira, disciple de Jésus, évangélise la terre. On va prier. Seigneur, je sais que tu reviendras. Je sais que l'Église sera enlevée. J'aimerais regarder ma propre vie, Jésus. Et j'aimerais simplement regarder à toi. Regarder mon cœur. Regarder l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Et j'aimerais me poser ces trois questions. Où est-ce que j'en suis ? Est-ce que je suis prêt parce que je me suis converti ? Est-ce que je suis prêt parce que j'alimente au quotidien ma vie avec toi ? Est-ce que je suis prêt parce que j'écoute ce que tu dis à l'Église et que je vais être un de ceux qui partagent l'Évangile autour de moi ? Finalement, c'est une bonne question. Jésus revient, es-tu prêt ? Parce que ça me met directement en relation avec toi pour savoir où j'en suis dans ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de mon voisin ou de ma voisine. Je sais seulement ce qui se passe dans ma vie. Et je n'aimerais pas être de ceux qui se lamentent après l'enlèvement, mais j'aimerais être de ceux qui sont enlevés. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, tu nous exhortes à être prêts. Et nous voulons vivre ce temps avec toi, maintenant. Amen. J'aimerais voilà, j'aimerais vous demander si pour l'un ou l'autre de ces points, il vous semble que vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas du chantage, ce n'est pas non plus des menaces ou de la peur, mais j'aimerais qu'on puisse être honnête avec Dieu, puis peut-être se lever en disant, ben, je ne vais pas dire quel point j'ai, où je dois être prêt, mais je vais me lever à ma place en disant, en faisant écho avec mon corps comme une réponse, écho à cette prédication, écho à ces paroles des chants qu'on a chantés, je te donne mon cœur, finalement je te donne toute ma vie. Et si c'est le cas de d'entre vous, eh bien, on va se lever et puis on va témoigner par le fait que, qu'on va se tenir debout, qu'on veut être prêt, qu'on ne l'est peut-être pas forcément aujourd'hui, que si Jésus devait revenir maintenant, ben, il y aurait peut-être des difficultés dans ma vie ou dans votre vie, mais on veut se dire, mais Seigneur, je veux me préparer. Je vais remettre cette disposition d'esprit dans ma vie pour être prêt à quand tu reviendras dans ces trois domaines. Alors, si c'est votre cas, eh bien, simplement levez-vous. Et puis, en fonction des gens qui se leveront, eh bien, on va voir un petit peu la suite des choses. Voilà, il y a beaucoup de gens. C'est merveilleux, c'est bien de se préparer au retour de Jésus. Je vous propose tous ensemble de prier à mi-voix pour qu'on puisse élever un parfum de louange à Dieu en disant, Seigneur, ben voilà, moi j'aimerais être prêt dans tel domaine, je ne suis pas prêt. J'ai peut-être besoin de me convertir, j'ai peut-être besoin de revenir à toi aujourd'hui. J'ai peut-être besoin d'arrêter d'être égoïste dans ma vie chrétienne puis de m'ouvrir aux autres. Puis si c'est votre cas, ben dites-le. Puis ceux qui ne sont pas levés, j'aimerais que vous puissiez prier à votre place pour les gens qui sont autour de vous, pour que vous puissiez les bénir, pour que vous puissiez les encourager. À votre place, que vous puissiez les regarder, peut-être citer leur nom et puis proclamer vraiment que Jésus est en train de faire une grande œuvre dans leur vie aujourd'hui. Mais on veut vraiment se laisser maler par Dieu, comme si on était de l'argile et puis qu'on voulait laisser Jésus faire de nous ce qu'il voulait. Alors prions ensemble. À mi-voix, tous ceux qui sont levés pour proclamer vraiment notre volonté d'être prêts pour ce grand jour, pour ce jour extraordinaire. Alléluia. Oh Jésus, merci Jésus. Voilà, prions à mi-voix comme si c'est un brouhaha qui monte vers le ciel. Alléluia, Jésus. Souffle sur nous, Seigneur, souffle en moi. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que chacun d'entre nous qui sont levés, Seigneur, puisse réaliser toute la grâce que tu nous fais aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Je terminerai par deux paroles. Jésus revient. Es-tu prêt? Amen.